ONG qui craignent que les droits humains ne soient pas respectés dans un pays souvent pointé du doigt en la matière, notamment sur l'exploitation des travailleurs migrants.
Cédric de Oliveira, merci.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présenté par Pierre Benoît.
Et bonsoir et bienvenue à l'écoute de Topette, la quotidienne de Radio G, comme indiqué dans le jingle juste avant. Topette qui sera demain avec un invité de WeForge, un forgeron ou une forgeronne. On garde un petit peu de suspense pour le moment. Ce sera d'ailleurs un petit peu le cas aussi ce soir, mais pareil, je garde un petit peu de suspense. Hier, nous étions avec le THG et le groupe musical Who is Who. Alors, on a pu répondre à cette question-là. On vous renvoie vers le podcast d'hier pour découvrir qui est qui, tout simplement. Et ce soir, donc, d'une semaine décidément très gourmande, n'est-ce pas, Nolwenn ?
Exactement, puisque ce soir, on va parler des bocaux du bocage.
Exactement. Alors attention, lundi, on était avec les bocaux à papa, et ce soir, nous sommes avec les bocaux du bocage. On va être avec Alexandre Béduneau, un des cofondateurs des bocaux du bocage, qui propose depuis peu les bocaux du bureau, et ça, on va en parler un peu plus précisément encore avec Arthur Damas, le business développeur des bocaux du bocage. En seconde partie d'émission, on va être avec Yves Maguin. Tu connais Yves, toi, Nolwenn, je crois ?
Oui, c'était mon prof quand j'étais à l'UCO.
Voilà, on va l'interroger justement sur cette expérience, très certainement. Non, pas du tout. On va parler ensemble du festival Chant contre Chant, deuxième édition. Oui, c'est déjà annoncé. Ce sera en novembre 2025. Alors pourquoi si tôt ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment on va pouvoir déjà avoir des... Il y a des infos très très croustillantes et Yves va pouvoir nous en parler dans quelques instants. On aura aussi la drôle de vie de Léona Graal. On aura Tonton Albert en fin d'émission. Bah, Topette, c'est parti. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Ah, c'est comment, Nolwenn ?
Topette@radio-g.
Oui, donc
quelque chose comme ça.
À peu près comme ça, c'est ça.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et peut-être qu'il reste encore quelques feuilles qui ne sont pas tombées dans le parc de Pignerol. En tout cas, c'est là qu'on va ce soir avec Camille qui nous emmène en balade du côté du château de Pignerol.
Envie de partir en vadrouille ? Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons en balade à Pignerol. Ce grand parc à Saint-Barthélemy d'Anjou, c'est 80 hectares de forêt, parc, bâtiment, bunker, tout un programme. Arrivé devant une ancienne dépendance, on admire cette grande véranda qui accueille aujourd'hui des expositions temporaires. En arpentant les grandes allées calmes, on arrive devant le château. Édifié au XVIIIe siècle, il est l'œuvre de l'architecte Michel Bardoul de la Bigotière et du sculpteur Pierre-Louis David, père de David d'Angers. Un jardin à la française agrémente ce bâtiment à la fois imposant, car tout d'un bloc, mais finalement finement intégré dans le décor. Certains s'en souviendront, il y a encore quelques années, le bâtiment abritait le musée de la communication. L'orangerie fait face au château. Imposant bâtiment de 280 mètres carrés, ses baies vitrées et ses larges colonnes fascinent. On peut aujourd'hui louer le bâtiment pour des réceptions. Si nous continuons notre promenade vers le sud, on peut entrer dans un potager. Chaque année, l'événement Jardin d'Expression y est installé. Conçu par les enfants et les étudiants de l'agglomération angevine, le but est de valoriser la créativité, toujours en lien avec le végétal. Partons nous perdre dans la forêt. À l'automne, tu peux y ramasser des châtaignes ou des champignons. Tout au long du parc, tu y trouveras des espaces de jeux pour les enfants, des circuits de randonnée, de course à pied, un parcours d'orientation. Nous arrivons maintenant devant d'étranges bâtiments en béton. Ce sont les bunkers de Pignerol. Il y en a en réalité 11 sur le site. Reliés par des souterrains, que l'on peut visiter aux Journées du Patrimoine par exemple, ou en contactant l'association Mémorial des Bunkers du Pignerol, ils ont été utilisés par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Pas encore rassasiés ? Si tu souhaites passer une journée en famille dans un parc, le parc des Ardoisières à Trélazé est aussi sympa. Tout proche, il est d'un tout autre style. C'est une ancienne carrière d'ardoise. Tu y trouveras aussi quelques vestiges d'habitation et des points d'eau. La végétation y a repris ses droits, c'est reposant et intriguant. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous!
Et si les lieux patrimoniaux vous intéressent et vous plaisent, rendez-vous le dimanche 15 décembre du côté de Saint-Rémy-la-Varenne. L'association du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne organise son premier salon du livre. On était avec eux, je ne sais plus quand, c'était la semaine dernière. On avait des rencontres d'auteurs qui sont prévues, de professionnels et d'associations écrits, publiés, photographiés ou même dessinés le patrimoine sous le prisme des enjeux environnementaux. Nolwenn, tu te souviens des noms qui seront là ou pas?
Inès, j'ai plus le nom de famille.
Inès Leroy, l'autrice d'Algues Vertes, par exemple, qui a fait beaucoup parler d'elle, Emmanuel Litou, ou même
La Topette.
La Topette, exactement. Plus d'infos sur prieuré-saint-rémy.fr et plus d'infos avec nos invités qu'on reçoit tout de suite maintenant dans Topette.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Alexandre.
Bonsoir à tous les deux.
Alexandre Béduneau, tu es un des cofondateurs des Bocaux du Bocage, et donc par extension des Bocaux du Bureau, dont on parle ce soir dans Topette. Tout ça, ça se passe à Tergat, hein, pour le lieu de confection, de concoction même. Et tu es accompagné ce soir de Arthur. Salut Arthur.
Bonsoir.
Arthur Damas, le business développeur des Bocaux du Bureau. C'est toi qui nous avais fait la présentation avec Nolwenn du frigo connecté qui est placé à WeForge, et ça, on va en parler dans quelques instants. Nolwenn, d'ailleurs, retour d'expérience, c'était très bon ce que tu avais mangé.
C'était incroyable, c'est vraiment super bon. Je recommande à tout le monde de tester, du coup. Alors, WeForge pour l'instant.
On peut tirer les fils un petit peu dans n'importe quel sens, mais on va peut-être essayer de les prendre dans le bon sens. La grosse actualité chaude, Alexandre, c'est vraiment les bocaux du bureau et l'installation de ce frigo à WeForge. En tout cas, dernièrement, c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux.
Eh bien, la dernière, voilà, c'est ça l'actualité. On a développé les bocaux du bureau pour mettre en place des frigos connectés dans les entreprises, donc notamment à WeForge à Angers, qui fonctionne très bien, malgré son emplacement hyper-centre. Et puis dans d'autres entreprises de production de Sèvres et Maine-et-Loire.
Alors on va pouvoir en parler exactement, quel est l'intérêt, les publics qui sont visés et tout. Le frigo en tant que tel, c'est une belle pièce. Arthur, tu nous avais fait la présentation. Est-ce qu'on peut essayer de le décrire visuellement aux auditeurs et auditrices? À quoi il ressemble ce frigo connecté? Et en quoi il est connecté par extension?
Alors c'est un grand frigo qui est fait en bois français, avec un joli écran où on va pouvoir retrouver le catalogue de tous les produits, on va pouvoir aussi retrouver les offres. C'est un frigo qui est connecté donc avec une technologie de balance connectée, ce qui permet d'enlever la technologie RFID qui est très polluante et d'avoir une technologie qui marche très très bien.
Alors frigo, mais vitré, hein, faut préciser, on voit tout de suite hein, les bocaux, on les aperçoit, ils donnent déjà envie au travers de la vitre, et du coup l'écran est sur le côté en fait.
C'est ça.
Nolwenn, est-ce que tu as des questions sur ce frigo?
Justement, ça fonctionne avec le principe de balance. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de, entre guillemets, tricherie? Comment ça se passe? Ça se base sur la confiance avec le client?
Ah oui, parce qu'on l'ouvre le frigo, c'est ça, et on va chercher ensuite. Hein.
Tout à fait, ouais, c'est ça.
Bah, en fait, il faut s'identifier avec un moyen de paiement, qui peut être une carte bleue ou via l'application où on aurait relié sa carte bleue. Ça débloque la porte, et à partir du moment où on enlève un bocal du frigo, ou un cookie, ou une boisson, ça détecte la perte de poids et ça facture le montant.
Et par extension, du coup, ça permet de gérer les stocks, Alexandre?
Exactement, et nous, on a les visus sur les stocks en direct, et ça nous permet d'adapter notre réassort et notre approvisionnement.
Et du coup, c'est dans des bocaux, cette technique de plat préparé directement dans des bocaux en verre, ça vient d'où? Est-ce que c'est déjà quelque chose de courant?
Ben c'est de la conserve, hein, comme on fait depuis très très longtemps. Et la particularité que nous, on a fait avec beaucoup du bocage et puis maintenant avec beaucoup du bureau, c'est qu'on a adapté nos recettes à des portions individuelles où il n'y a plus qu'à faire réchauffer et toute la garniture de légumes, la viande, la sauce, tout est présent dans le bocal. Et le pot VEC qu'on utilise est plutôt bien conçu pour manger directement dans le bocal.
Oui, Arthur, tu nous as fait la description du frigo, la description des bocaux, en fait, c'est quand même des grosses terrines de pâté, par exemple, sauf que dedans, il y a un plat cuisine, et c'est ça?
Tout à fait.
Est-ce que tous les plats se prêtent aux bocaux? C'est vraiment un certain type de plat, ils s'y prêtent pas forcément tous, faut faire des tests? Comment ça se passe?
Alexandre?
C'est toute la complexité de notre travail aujourd'hui, c'est de réussir à obtenir le résultat final qu'on souhaite après stérilisation. Donc c'est ça un petit peu le plus dur de notre métier, c'est pas forcément de créer une nouvelle recette, c'est d'avoir le résultat souhaité après stérilisation. Donc tout ne se prête pas à la stérilisation.
Oui, il faut bien préciser que ce ne sont pas juste des plats qu'on réchauffe. Tout ne peut pas se réchauffer. Il suffit pas de préparer un plat puis de le réchauffer. Il y a déjà dans la préparation du plat la perspective qui va être réchauffée par la suite. Donc faut prendre tout ça en compte pour la préparation, Alexandre.
Exactement. Dans les textures, dans les saveurs, dans les goûts, il y a des choses qui sont bougées pendant la stérilisation.
Et si on parle un peu plus du public, du coup c'est à destination des entreprises pour le moment. Est-ce que vous avez songé à un public plus jeune, type dans les écoles supérieures, dans les lycées, ou pour l'instant vous restez vraiment focus sur les entreprises?
On est ouvert aussi à ça, puisqu'il y a des demandes dans des écoles sup. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est le milieu de l'entreprise qui nous a attirés, puisqu'on avait la demande. On est déjà présent avec les bocaux du bocage dans les entreprises, souvent dans les pôles formation, les choses comme ça. Et puis là, ça permet d'être directement dans la salle du personnel pour ouvrir à tout le monde.
Et peut-être aussi que les personnes qui se... Parce que l'idée, c'est d'avoir un plat sain, malgré tout. Rapide, mais sain. C'est peut-être aussi des personnes qui ont un certain âge. Peut-être que les étudiants sont moins intéressés de prime abord par cette offre.
Ouais, je crois pas. Je crois que le mieux manger, il est... Tout le monde a ça un petit peu dans l'idée aujourd'hui, que jeune ou moins jeune. Donc je pense que ça se prête à tout le monde. Après, il faut adapter les recettes à différents milieux. C'est plus là, voilà.
Nolwenn, non, tu t'avais toi.
Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que je sais qu'il y a beaucoup de distributeurs type Sodebo et tout, mais on n'a pas de proposition comme ça assez saine finalement. On retrouve pas ça dans les écoles supérieures ni rien.
Ben on arrive.
En fait, Nolwenn est en train de faire du lobbying pour...
On avait des food trucks qui venaient, mais pareil, c'est pas des propositions forcément très, très bonnes pour la santé. Donc, à part les supermarchés, les boulangeries aux alentours, on retrouve pas ce genre de propositions. C'est ce qui manque.
C'est tout le concept de bocaux du bureau, c'est de pouvoir proposer des plats sains, copieux, à un prix raisonnable, et puis avec ce côté pot consigné également, quoi. C'est ça ce qu'on
met
beaucoup
d'avant. Oui, voilà, justement, Alexandre et Arthur, faut bien préciser que la gestion des stocks via le frigo connecté permet d'éviter le gaspillage alimentaire dans la production, mais le fait que ce soit aussi réutilisable, ça évite peut-être des déchets, Arthur.
Oui, tout à fait. Avec le système de consigne, je pense que nous qui travaillons avec les POVEC, on peut réutiliser quasiment de manière illimitée les pots. Donc tant qu'ils nous reviennent, on n'a pas de création de déchets plastiques là-dessus.
Eh bien voilà pour les bocaux du bureau. Nolwenn, tu avais encore une question peut-être.
Est-ce que, oui, justement, le prix, c'est quelque chose qui vous permet d'être assez attractif? Parce que finalement, quand on regarde les prix, c'est presque moins cher que si on allait acheter son menu dans une boulangerie en bas. Est-ce que c'est ce qui vous permet de fonctionner aussi?
Alors, on est... C'est nous qui développons l'offre de bocaux du bureau. Donc comme on est fabricant au départ, ça permet d'avoir des prix qui sont raisonnables. Et puis après, en fonction des établissements, des lieux, de l'entreprise, du choix de l'entreprise, on pourra adapter des prix en fonction des uns ou des autres.
Les bocaux du bureau, proposés par les bocaux du bocage, tout ça on va en parler, puisque derrière il y a une histoire familiale, ancestrale presque, je crois que ça remonte quasiment au siècle dernier, ou quasiment tout juste. En tout cas, ce sont deux frères, puisque Alexandre et Mathieu sont frères. On va en parler de cette histoire, et puis aussi de ce pourquoi continuer la tradition familiale, et puis continuer dans l'entrepreneuriat. On fait juste une pause musicale sur le 101.5 FM, on écoute Touche-moi de Kalika avec Johanna.
Touche-moi sans même me toucher, goûte-moi sans même me goûter, Johanna. Oh, quand je te vois, je me dis oh là là. C'est vrai, les mâles nous ont fait du mal, yeah, yeah. Ils ont pris nos cœurs tendres, ils nous ont dévorés. Avec toi, c'est pas banal, c'est pas de la dalle, non. Je te sens dans mon cœur, je suis plus forte que jamais. Touche-moi sans même me toucher. Goûte-moi sans même me goûter. Kalika. Oh, quand je te vois, je me dis oh là là. Touche-moi sans même.
donne des mots pour s'abîmer. J'ai mal et toi tu m'emmènes dans les voies.
Touche-moi de Kalika et Johanna sur le 101.5 FM de Radio G.
Topette sur Radio G.
Et ce soir, on continue avec les bocaux du bocage qui proposent depuis 2024, me semble-t-il. C'est ça la date, Alexandre, des bocaux du bureau.
Tout à fait.
Donc c'est vraiment une actualité chaude, toute récente. On est avec toi, Alexandre Bédunot, un des cofondateurs des bocaux du bocage. Avec toi, Arthur Damas, le business développeur. En tout cas, tu m'es présenté comme ça, des bocaux du bureau principalement, toi. Ça va être aussi ça, ta tâche. Hein.
Bocaux du bureau et bocaux du bocage, ouais.
Voilà. Alors l'idée, ça va être de peut-être développer. Peut-être qu'il y a des ambitions derrière. On pourra en parler tout à l'heure. Je crois que Nolwenn a une question tout à propos. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne en arrière plutôt, Alexandre, car c'est une entreprise familiale avec ton frère et aussi, citons-le, Simon Gérard, qui vous a soutenu et accompagné dans la création des bocaux du bocage. Mais vous partez pas de rien, car à Tergat, à la Jumelière, du côté de Chemillé en Anjou, existait déjà, de par vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais en tout cas, existait déjà une conserverie familiale, et pas que, puisqu'il y avait aussi une dimension traiteur, même un restaurant sur place. En tout cas, il y avait déjà une réputation et puis un historique. Tu peux nous en parler, Alexandre ?
Alors, je vais essayer de résumer, parce que sinon ça peut être très long, de remonter 4 générations. Donc effectivement, avec Mathieu, aujourd'hui, on est la 4e génération sur la ferme à Tergat. Alors, il n'y a pas toujours une conserverie, toujours eu le restaurant. Donc, c'était une ferme traditionnelle des Mauges jusque dans les années 80, où notre père a repris la ferme familiale et l'a complètement transformée en élevage de canards et d'oies pour faire de la transformation. Donc, c'était dans les familles précurseurs du gavage du canard dans le département, dans les années 80. Gavage-transformation, donc sur le modèle un petit peu des fermes du Sud-Ouest avec pâté, rillettes, terrines, confits, cassoulet. Et puis, ça les a emmenés jusque dans les années 90-94, où nos parents ont décidé d'ouvrir une auberge à la ferme, donc sur le thème du canard, sur le principe du ferme-auberge, mais en restant ouvert à d'autres approvisionnements pour pouvoir faire du poisson ou d'autres viandes que du canard. Donc ce modèle-là, il a continué le modèle ferme, conserverie et puis restaurant, jusque dans les années 2000. Où tous les deux avec Mathieu on est revenu 2003 et 2004 reprendre tel que c'était. Et puis bah quand deux jeunes arrivent sur une exploitation, forcément ça développe. Donc moi, en étant cuisinier de métier, un parcours d'école hôtelière et puis de restaurant gastronomique, bah j'ai pris la partie auberge restaurant. Et puis Mathieu, avec son profil un peu plus agricole, s'est occupé de la ferme, mais s'est vite occupé de la conserverie vu qu'on développait les deux en parallèle. Donc on a continué comme ça jusqu'en 2016, et puis en 2016, c'est Gilles, qui fait partie du quatuor de Bocaux du Bocage, qui connaît notre papa depuis qu'on est tout petit, qui nous a demandé de réduire nos pots pour en faire des plats cuisinés en parts individuelles. Donc en avril 2016, Gilles, il a ouvert le Café du Port, Cale de la Savate à Angers. Donc c'est de là que tout est parti. Et puis en un mois d'activité, bah Gilles, c'est quelqu'un qui pouvait passer jusqu'à 1500 pots par semaine avec une terrasse de 140 places assises et puis pas de cuisine, pas de cuisinier, seulement une batterie de micro-ondes en cuisine avec en présentant le concept des bocaux. Donc gros succès immédiat. Et à la fin de cette année 2016, on a rencontré Simon Gérard par le biais de Gilles et pour pouvoir monter un gros projet de restauration en Vendée, à côté d'un parc en Vendée.
On peut le citer, hein, il n'y a pas de...
Ouais, bah c'était pour monter une brasserie au niveau du Puy du Fou, et sur le thème des bocaux. Donc Simon, en ayant découvert le concept des bocaux, était très très enthousiaste par le fait de monter une brasserie où qu'il n'y avait pas de cuisinier, et puis pas de cuisine et surtout pas de perte. Donc on s'est associés tous les quatre pour créer la marque Les Bocaux du Bocage à ce moment-là. Et puis le projet nous a pas été attribué, mais en parallèle de ça, l'hôtellerie s'est beaucoup beaucoup intéressée à nous dans cette année 2017. Et puis ça, on a fait le choix de faire nos distributions en direct à l'hôtellerie, la restauration et puis tous les professionnels que ça intéressait de distribuer beaucoup du bocage. Donc voilà comment est partie l'aventure de Bocaux du Bocage.
Une histoire qui mériterait d'être racontée beaucoup plus longuement, effectivement, même ouais. Peut-être un ouvrage à venir. On va attendre que des années, que l'histoire continue à s'étoffer. Juste pour préciser, Simon Gérard, c'est pas un inconnu du monde de l'entrepreneuriat, c'est l'un des cofondateur de WeForge aussi, hein, WeForge qu'on connaît assez bien justement si on s'intéresse à l'entrepreneuriat à Angers, mais pas que désormais puisque c'est ouvert au Mans il y a quelques temps. Nolène, t'avais une question.
En 2020, je crois que votre entreprise a un petit peu explosé après le deuxième confinement, le niveau de commandes a explosé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Eh ben, en fait, nous, on était prêts, quoi. On était prêts. La marque, elle a été lancée depuis 2016. Notre laboratoire, qui était conçu pour vraiment pour pouvoir se développer, on était là. Et puis, bah là, à ce moment-là, quand il y avait plus de restaurants, qu'il y avait plus d'activités de restauration, mais il y a que la restauration qui était arrêtée. Donc, du coup, on avait une demande qui était incroyable tous les jours. Et puis bah on était en mesure de répondre à cette demande, donc on s'est beaucoup développé sur cette année 2020, début 2021. Et puis bah tous les établissements qui ont mis en place la solution des bocaux bah ont continué par la suite, ça s'est pas arrêté quoi. Et puis maintenant en fait on se rend compte qu'on a presque créé une nouvelle façon de consommer quoi.
Et justement, une nouvelle façon de consommer, car on l'évoquait un petit peu tout à l'heure en première partie d'interview, hein, les moins jeunes, mais les jeunes aussi, on a bien compris Alexandre, désirent mieux manger sans pour autant faire de compromis sur le temps nécessaire, parce que du coup, on n'a pas tous et les aptitudes pour cuisiner et le temps pour cuisiner. Du coup, c'est vrai que c'est une offre qui répond à une demande qui existait, mais qui n'avait pas forcément qui ne trouvait pas forcément preneur. Ça, c'est une dimension qui est très importante aussi dans la démarche de penser à l'environnement, à la santé, de proposer des produits de qualité, des produits locaux.
Bah, des produits de qualité, ça, c'est indispensable. Ça, c'est notre fil conducteur depuis des années. Ça l'a toujours été. Les produits locaux, le maximum qu'on pourra utiliser en produits local, on le fait. Le départ des recettes qu'on faisait avec Mathieu, c'était de retrouver le goût de la cuisine de nos grands-mères. Et quand on faisait goûter les pots, quand la personne nous disait « Ah, ça a le goût du bourguignon de ma grand-mère, ça a le goût de la blanquette de ma grand-mère », ben pour nous, c'était gagné parce que c'est réconfortant, en fait, ces goûts-là.
Arthur, ça fait longtemps que t'as pas parlé, du coup j'ai envie d'avoir tes impressions au-delà de, voilà, t'enlèves ta casquette de partie prenante des bocaux du bocage et des bocaux du bureau. Toi, en tant que consommateur, d'une certaine façon, qu'est-ce qui te séduit? Parce que quand tu nous présentais les choses, t'étais extrêmement convaincu. C'est pas juste pour ton travail, t'étais vraiment convaincu par ce produit-là. Et puis on peut préciser ton âge, t'as quel âge?
Moi j'ai 25 ans.
Voilà, t'as 25 ans, donc t'es relativement jeune. Qu'est-ce qui te plaît dans ce produit en tant que consommateur, toi?
Bah moi, quand je suis arrivé chez les bocaux du bocage, donc j'étais déjà hyper surpris de la durée de conservation. Moi, je crois que c'est la première question que j'ai posée en entretien quand on m'engage, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire tenir un plat qui est chouette, un plat avec des bons aliments qui tient 3 ans à température ambiante dans un placard ou n'importe où. Donc déjà, il y a ça qui m'a vachement fasciné sur le produit. Et puis il y a aussi toute la dynamique quand je suis arrivé à Tergat et que j'ai découvert le. Enfin, c'est une ferme en fait. On n'est pas dans des gros locaux, c'est resté une ferme. On essaye de faire marcher au maximum les locaux. On essaye de, en supprimant des intermédiaires aussi, on arrive à sortir des pots qui sont moins chers. Moi, ça me touche aussi en tant qu'étudiant d'avoir une qualité dans l'assiette et sans forcément débourser hyper cher comme on peut avoir dans d'autres moyens de consommation, quoi.
Et vous, donc, vous avez beaucoup de succès. Est-ce que vous avez l'ambition de vous développer à travers toute la France, et comment vous allez faire pour garder cet aspect local, du coup, si vous développez autre part en France?
Alexandre.
Bah aujourd'hui, beaucoup du bocage est déjà présent sur toute la France, puisqu'on a des chaînes d'hôtels où il y a quasiment la totalité des hôtels qui sont équipés de bocaux. On expédie vraiment au quotidien partout en France.
À l'Europe, peut-être? Non?
On un tout petit peu en Belgique, Luxembourg et Espagne.
Et comment on garde cet aspect local? On prend des spécialités, par exemple, si on exporte en Savoie, on va prendre des spécialités locales de là-bas?
Alors, c'est ce qu'on essaie de faire. Et la Savoie, c'est pas facile à investir. Mais en fait, c'est vrai que nous, autour de chez nous, on peut réussir à mettre en avant le côté local, ce qui n'est pas le cas quand on va vendre des pots à Marseille. Mais c'est des gens qui ont une autre problématique quand ils sont loin. C'est de pouvoir proposer une restauration de qualité, mais qui serait pas fait sur place. Donc, comme aujourd'hui, on n'est pas beaucoup d'interlocuteurs et on commence à avoir une belle place, bah forcément, beaucoup du bocage ressort et puis ça fait partie des références aujourd'hui sur ces produits.
En tout cas, goûtez-y, c'est très bon. Voilà, ça vaut le détour, ça vaut le coup de tirer sur la petite languette orange pour déstériliser, pour dépoper le bocal, tout simplement. On va continuer à en parler. En tout cas, on donnera toutes les infos pratiques en fin d'émission, car peut-être que nous, en tant que particulier, on peut aussi se procurer un bocal, ou en tout cas, où est-ce qu'on peut retrouver, quelle entreprise on peut rejoindre pour trouver les bocaux du bureau. Vous restez avec nous, bien évidemment, Alexandre et Arthur. Dans quelques instants, on va recevoir Yves. Mais avant tout ça, on fait un petit détour par la drôle de vie de Léona Grahn.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Une petite pensée à tous ceux qui vont devoir supporter la belle famille pour les fêtes de fin d'année, et notamment à Noël.
Papa, papa.
Oui, qu'est-ce qu'il y a les enfants?
Est-ce que le Père Noël il va crier?
Quoi?
Est-ce que le Père Noël il va crier?
Bonne question ça, chérie.
Quoi?
Est-ce que le Père Noël il va crier?
Hein?
Est-ce qu'il va...
Ça dépend si les enfants sont sages.
Vous avez entendu les enfants?
Oh!
Alors restez sages. En plus, il y a papy, mamie et toute la clique qui vont pas tarder. Tiens, papy, mamie!
Salut!
Et toute la clique, il est où?
Oh, il est juste derrière.
Salut!
Ah, toute la clique, salut!
Comment ça va?
Allez-y, entrez, entrez!
Merci!
Bon alors, toute la clique, je te présente ma femme Sophie.
Bonsoir, monsieur Click.
Oh, vous pouvez m'appeler toute là.
Ah bah, enchantée, toute là.
Enchantée, Fifi.
Ah, chez nous, c'est trois.
Ah bon, d'accord. Ensuite, Michel, mon beau-père.
Enchanté, Chéchel.
Ah, chez nous, c'est quatre. Ah bon, bah. Et enfin, Suzy, ma belle-mère.
Enchanté, Zizi. Chez nous, c'est 52.
Ah bon, bah. Alors, les enfants, vous avez décoré le sapin?
Oh non, on a oublié l'étoile.
Ah bah, il faut pas oublier l'étoile, c'est important.
Viens, on va l'accrocher.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ah, ils tiennent pas en place.
Allez, je te porte sur mes épaules et tu mets l'étoile, d'accord?
Ok.
Vous avez besoin d'aide en cuisine?
Non, ça va, papa, t'inquiète, ça va être prêt, là.
Ah bah, ça tombe bien. Je comptais pas vraiment aider, de toute façon.
Bah, vas-y, mets l'étoile.
Attends, Gigi, c'est presque, rapproche-toi un peu.
Allez, mets l'étoile.
Mets l'étoile.
Tout va bien, les enfants?
Bon, bah, allez, c'est l'heure de passer à table.
Ah, enfin, super, voilà, super, super, super.
Chérie, tu te mets à côté de mon père?
Oh non, s'il te plaît.
Pourquoi?
Je vais encore devoir écouter ces commérages sur des gens que je connais même pas.
Mais non, arrête un peu. Allez, assieds-toi.
Ah tiens, Guillaume, on dirait bien qu'on est encore assis à côté cette année, hein? Ouais, je vois que vous êtes toujours aussi observateur.
Ouais.
Oula. Oh, mais je t'ai pas raconté.
Non, mais c'est pas obligé.
Le fils des Dupont, là, Maurice.
Oh, c'est reparti.
Eh ben, il s'est marié avec la fille des Grugeaux.
C'est pas vrai.
Je te jure, c'est fou, hein?
Je crois que c'est la nouvelle la plus folle que j'ai jamais entendue.
Et attends, je t'ai pas dit?
Non, dites-moi pas.
La fille de Martine.
Qui?
Tu te rappelles, vous étiez à l'école ensemble?
Pas du tout.
Eh ben, figure-toi qu'elle est décédée le mois dernier.
Bah, ça alors, c'est fou le nombre de gens qu'on connaît pas qui décèdent comme ça.
Eh oui, attends, c'est pas tout.
Non, Michel, c'est bon, j'en ai assez entendu.
Mais attends, tu sais le fils de Christ?
Il se mariait avec ma fille des Dupont.
Malgré ces quelques petits désagréments, Noël restera toujours un moment magique de convivialité et de partage en famille.
Ouais.
Alors qu'à la Saint-Sylvestre, l'ambiance est tout autre pour célébrer la nouvelle année.
La drôle de vie de Léona Grahn à retrouver dans deux semaines dans Topette. Léona Grahn dont on va entendre parler très prochainement, car elle est partie sur un projet. Peut-être l'avez-vous croisée en ville, habillée tout en orange, en costard, très classe, mais tout en orange bien fluo avec un de ses acolytes. On vous tient informé très prochainement, et on vous tient informé aussi de quelque chose qui va avoir lieu dans un an, mais on en parle déjà ce soir dans Topette avec notre deuxième invité de la soirée.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Bonsoir Yves.
Bonsoir Pierre Benoît, bonsoir tout le monde.
L'espace d'un instant, j'ai eu envie d'imiter la voix d'Homer Simpson pour te présenter. Alors pourquoi? Parce que toi tu es président, fondateur du festival Chant contre Chant, dont Radio G est partenaire. D'ailleurs l'édition avait eu lieu en mars 2024.
Ouais, tout à fait.
C'était un plutôt beau succès pour une première édition. En tout cas, ça avait fait parler de lui, ce festival. Et déjà, l'édition 2025 est prévue. Alors, c'est dans un an, puisque ce sera en novembre et non pas en mars. Mais mercredi dernier, déjà, on en entendait parler. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler, mais avant tout ça, on peut peut-être rappeler ce qu'est chant contre chant avec ce jeu de mots, le chant, les chants même, contre chant, comme la caméra qui se tourne chant contre chant, hein, Yves.
Eh ben, j'ai plus rien à dire. Bravo, Pierre-Benoît.
Non, c'était pas assez clair, je pense.
Je rigole. Donc, le festival Chant contre Chant est un festival un peu pluridisciplinaire, qui mêle effectivement tout ce qui va être court-métrage avec musique originale, vidéoclip, mais également des concerts, des tables rondes, des ateliers autour de la voix. Et donc, Chant contre Chant, CHANTS contre CHAMPS. C'est un petit jeu de mots avec la technique cinématographique du chant contre chant qui permet donc la règle des 180 degrés de faire un dialogue quand on fait un film.
Tu fais quand même ça vachement mieux que moi de présenter le festival. Alors, bilan rapide quand même de l'édition 2024. C'est entre guillemets, oui, ça pourrait être la première édition, mais en fait c'est la première et demie puisqu'il y avait déjà eu quelque chose en 2004 pour l'historique. Comme ça s'est bien passé, tu es satisfait? On a remis les prix, les personnes qui ont participé aussi étaient heureuses?
Alors effectivement, en mars 2024, renaissance, on va dire, du festival Chant contre Chant, parce qu'il a été créé en 2004, pour être très exact, à Poitiers. Quand j'étais étudiant, il y a eu 4 éditions, et puis le festival s'est arrêté quand moi je suis parti travailler en Angleterre. Et j'ai gardé cette association, qui s'appelle l'association Chant contre Chant également, en sommeil. Et puis, suite à finalement à l'accompagnement d'une étudiante en master dans son mémoire autour des festivals et notamment des festivals de vidéoclips, l'envie de recréer un festival m'a titillé et je me suis dit allez, c'est le moment, je recrée. Et pile poil 20 ans après, donc nouvelle édition, cette fois-ci première édition sur Angers, et les prix super, parce que le grand prix c'est même un film belge hein, qui a gagné, et ensuite on a eu effectivement différents prix de la meilleure musique bien évidemment par rapport à notre ADN, avec un film fait à Écouflant par un réalisateur, son premier film, donc Ténèbres, qui a eu la chance d'ailleurs d'avoir Sinclair comme compositeur pour son court métrage entre autres.
Alors mercredi dernier, du coup, il y avait un petit événement qui était organisé au Pathé, le cinéma Pathé Gaumont à Angers, avec l'ancienne présidente du jury qui, pour la prochaine édition, sera la marraine, Véronique Augereau. Je ne sais pas si ça vous parle, Nolwenn, est-ce que tu connais Véronique Augereau?
Non, ça ne me dit rien du tout.
Yves, je te laisse donner plus d'explications.
Et pourtant, sa voix est très très connue car il s'agit de la voix française de Marge Simpson depuis 35 saisons. Effectivement, c'était la présidente du jury des courts-métrages et vidéoclips aussi pour l'édition 2024. Et avec son mari, Philippe Pétieux, qui est également la voix de Homer Simpson. Et oui, ils sont en couple aussi dans la vie. Je leur ai proposé de devenir marraine et parrain du festival Chant contre Chant. Ils ont accepté, et pour marquer le coup, mercredi dernier, effectivement, on a mis en place avec le cinéma Pathé une après-midi spéciale avec séance de dédicace, mais également démonstration de doublage en direct devant près de 300 personnes.
Un gros coup de com' aussi pour lancer l'appel à film. Déjà, alors les jurys commencent à se constituer tranquillement. Je sais pas si on peut annoncer. Bah si, aussi. Il y avait une conférence de presse qui annonçait déjà la présidente de jury. Hein.
On peut annoncer effectivement. Alors, ça sera un président cette fois-ci, donc un compositeur, Erwan Chandon, qui était présent pour l'édition 2024, donc en mars, pour une table ronde. Donc, il sera le président du jury. Et nous avons également Dorothée Pousseau qui sera dans le jury, qui est la voix officielle de Margot Robbie, celle qui joue Barbie, Harley Quinn, etc. Et puis plein d'autres voix également. Et puis on a un réalisateur aussi nantais qui s'appelle Victor Sesca qui sera présent.
Les jurys commencent à se composer, mais maintenant on attend des productions, des réalisations aussi. Donc c'était ça l'idée, c'est on prend une bonne année d'avance pour lancer l'appel et puis permettre. Alors c'est quoi les conditions? Est-ce qu'on peut, c'est amateur, professionnel? Qu'est-ce qu'on doit proposer et où ça marche?
Alors effectivement, cet événement spécial du 4 décembre était aussi l'occasion de lancer notre appel à films, donc court-métrage et vidéoclip. Donc court-métrage avec musique originale, très très important, et vidéoclip en tout genre, mais récent également. Pour pouvoir participer, effectivement, il faut avoir donc un court-métrage de moins de 20 minutes ou un vidéoclip de moins de 7 minutes. Ça peut être des cours amateurs, mais également d'école, d'étudiants, de professionnels. Tout le monde est le bienvenu, et on propose aussi via notre site web de mettre en relation les réalisateurs qui cherchent des compositeurs et les compositeurs qui cherchent des réalisateurs, parce que des fois ils ont des idées, mais pour mettre à bien les projets, effectivement, il faut les faire rencontrer.
Bon, on fait une toute petite pause musicale et puis on va conclure cette émission de ce soir. On va écouter 00 de Nua et Solaleil, qui justement est le clip réalisé par Emmanuel Babin, qui avait remporté un titre.
Exactement, meilleur vidéoclip du Festival Chant contre Chant 2024.
On n'aura pas le clip, mais on aura la musique ce soir dans Topette à l'écoute du 101.5 FM.
Le reste on verra après. T'as la tête balafrée, c'est que je t'ai fait du sale. T'inquiète, je fais le taf, je mènerai au Bahamas, sûrement à la nage. Parce que j'ai pas de pécule, encore moins de vécu. Sans cul en vita, et y'a écrit, tu me vois pas passer. Je comptais pas m'étaler comme une crème pâtissière. Mon rabis date pas d'hier, sans frontières, sans barrière. Cagouva, j'ai parié, je suis en t-shirt dépareillé. Tu crois que j'ai pas style, mais sur moi tu vas parier. Sur moi c'est bien carré. Bien sûr, je te paye en chèque en blanc. J'ai pas d'argent sur le compte en banque. Bien sûr, je te paye en chèque en blanc. J'ai pas d'argent sur le compte en banque. 000, je roule un turbo. Fais attention à ta vie. Ouais, y'a des fous qui m'habitent. J'envoie ma tête en orbite. Hors habitat, je te tacle sur ce beat. Moi je débite, toi t'es trop lent, j'ai trop de talent. Je m'allie tellement bien la langue, je fais descendre, c'est indécent. Je te ferai pas un dessin, je suis un saint parmi les saints. Je mets rime ricoche, tu loupes le coche, tu fumes trop de cash et tu décroches. Pas de monnaie dans les poches, j'ai tout mis sur mon bob. Ton cerveau fait des lobes comme sur la tête de Bob Marley. Chant pas d'Harlem, dans les veines, tu sors des sorcières de Salem. C'est pas sorcier, je fais de l'art et toi tu aimes. Bien sûr, je te paye en chèque en blanc. J'ai pas d'argent sur le compte en banque.
00 de Nua et Solaleil sur le 101.5 FM de Radio G, qui donc était la meilleure réalisation de vidéoclip musical dans le Festival Chant contre Chant édition 2024. Et justement, nous sommes toujours avec toi, Yves, pour conclure sur ces annonces qui sont arrivées la semaine dernière concernant la prochaine édition 2025. Juste petite question, ce sera en novembre, du 13 au 16 novembre 2025,
la
deuxième édition. Pourquoi novembre et plus mars?
Alors, deux raisons. La première, parce qu'on a un gros festival qui est dans la même thématique, qui est à Marseille et qui sera exactement le même week-end.
Et tu voulais pas leur faire de l'ombre.
Exactement. Non, mais c'est en discutant avec certains compositeurs qui sont aussi présents dans ce festival. Déjà, cette année, c'était compliqué. Certains ne sont pas venus à cause de ce festival parce qu'ils voulaient pas se déplacer deux semaines de suite, deux week-ends de suite, et effectivement là on serait le même week-end, donc c'est compliqué. Et la deuxième raison, c'est aussi pour pouvoir avoir du public en termes étudiants également, parce que fin mars, les étudiants sont quand même beaucoup partis de la ville d'Angers, et on se dit que c'est en début d'année pour de universitaires, il y a encore toute cette dynamique étudiante qui existe sur le territoire, et donc potentiellement ils peuvent y participer en tant que dans la compétition. Et en tant que public.
Merci beaucoup, Yves. Très honnêtement, ça vaut le soutien, ça vaut le coup d'œil. C'est très bien organisé. C'est porté par Yves quasiment tout seul. Voilà, tu t'entoures de très bonnes personnes. Il y a une vraie âme et une vraie chaleur dans ce que tu proposes, dans Chant contre Chant. Donc, même si on n'est pas forcément branché réel ou clips, ça vaut vraiment le détour. Ça mérite qu'on y participe. Et en plus, tu sais comment inciter les gens à venir, puisqu'il y aura des ateliers doublage, il y aura plein de choses comme ça. Donc le programme sera à retrouver sur le site internet peut-être ?
Exactement, chantcontrechant.com, donc CHANTS contre CHAMPS, donc au fur et à mesure sur les réseaux sociaux également, on va dévoiler des choses tout au long de l'année qui va arriver.
Et puis tenez-vous informés aussi dans Topette et sur Radio G, puisqu'on vous donnera les infos quand elles arriveront au compte-gouttes. Merci beaucoup Yves d'être passé ce soir dans Topette. Bon courage pour l'organisation. Alexandre, Arthur, concernant les bocaux du bocage et les bocaux du bureau, qu'est-ce qu'il faut retenir, l'essentiel des bocaux du bocage, Alexandre? On peut retrouver ça dans les hôtels, mais j'avais une vraie question précise. Si on est particulier, est-ce qu'on peut, pas en magasin, mais on peut aller à la conserverie, à Tergat directement ou pas?
Exactement, à Tergat, à la conserverie, on a le magasin qui est ouvert du lundi au vendredi. Et puis là, à partir de lundi, tous les jours jusqu'à Noël, où vous retrouverez les tartinables, les pâtés, les rillettes, les terrines, et puis une partie des recettes similaires, mais en format un peu plus familial.
Arthur, la prochaine grosse actu qui va arriver concernant les bocaux du bureau, est-ce qu'on a déjà une nouvelle entreprise qui a signé pour un frigo connecté?
Non, pas encore, mais plein de surprises.
Et on peut pas, non. J'essaie de le travailler, mais je crois qu'on en aura pas plus ce soir. Pareil, le site internet. Il y a peut-être aussi, on peut sur place, encore une fois, Alexandre, découvrir. Il y a peut-être des portes ouvertes concernant les bocaux du bocage.
Eh bien, on est en porte ouverte le 21 et 22 décembre à la Jumelière, à Tergat, où on va présenter nos produits, et puis avec viticulteurs, chocolatiers, fromagers qui seront là également.
Une prochaine recette dans les starting blocks, peut-être ?
Ça sera notre mission du première semaine de janvier de développer de nouvelles recettes. Aujourd'hui, il y a un peu trop d'activités pour être dans la recherche, mais c'est de la recherche continue.
Oui, j'imagine. Il y a déjà suffisamment de bonnes recettes. N'est-ce pas, Nolwenn ? C'était quoi le poulet ou...
Le poulet, il y avait du coteau du Léon dedans.
Voilà, avec modération bien évidemment dans le poulet, on est d'accord Alexandre?
Bien sûr, mais c'est cuisiné, c'est la recette phare des bocaux du bocage.
Bon, merci beaucoup en tout cas d'être passé dans Topette ce soir. On tiendra informé aussi s'il y a des prochaines actualités. On va tenter de négocier un petit frigo Nolwenn à Radio G, ça te va?
Ah oui, ça me va, parfait.
Voilà, comme ça on mangera ça tous les midis. Merci beaucoup Alexandre et Arthur d'être passés dans Topette. Nous on se retrouve demain, on sera avec qui demain? On sera avec d'autres forgerons. On n'a pas encore les noms, mais on vous les dévoile forcément demain. Prenez soin de vous. À demain, on va se quitter avec Tonton Albert. Topette ?
Topette. Alors, Tonton, l'année se termine ?
Et pas en beauté, si tu veux mon avis. Dans un passé, notoirement nauséabond, une menace explicite vis-à-vis de la culture avait été brandie, et par extension envers celles et ceux pour qui la culture n'était sûrement pas des clopinettes. Cette sentence, attribuée à un maréchal à croix gammée, alors qu'il ne faisait que la colporter, proclamait ceci. « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. » De nos jours, ce type de réaction, pour le moins antinomique, n'a heureusement plus cours. Et tout particulièrement dans notre riante région des Pays de Loire. Non, désormais, on ne sort plus de revolver, mais la hache budgétaire. Pour les coupes sombres, la hache, c'est bien pratique. Alors que le flingue, ça ne fait juste que quelques trous, insuffisants, notoirement insuffisants. Vous me direz, vous qui m'écoutez, il existe des moyens infinis pour détruire la création artistique et la soif de connaissance qui, au moins en théorie, devrait animer n'importe quel humain doté d'un cerveau. En résumé, tout ce qui peut nous rendre moins stupides et de ce fait plus à même de mieux vivre nos existences d'humains et de les partager avec d'autres humains, c'est ça. La culture. Manifestement, cette perception n'est pas unanimement partagée par nos dirigeants régionaux. Des dirigeants qui, comme leur nom l'indique, nous dirigent vers un futur du repli sur soi. Oh, que ça fleure bon la perspective réjouissante. Simultanément, alors que le gouvernement démocratiquement élu de M. Barnier est désormais prié de faire ses cartons, imposait à notre docile région des Pays de Loire de lui reverser la bagatelle de 40 millions d'euros, notre zélé président de la région pratiquait une inattendue surenchère en annonçant 60 millions d'économies supplémentaires. Qui dit mieux ? Et comme je le laissais entendre précédemment, la culture est toute désignée pour participer activement à cet effort de guerre. Le chiffre de 73% de restrictions budgétaires est avancé en ce qui concerne la culture. Tant qu'on y est, pourquoi pas 100%. Bizarrement, je n'ai pas entendu dire que les élus du conseil régional allaient renoncer à leurs émoluments pour limiter la casse de l'offre culturelle régionale. Mais j'ai dû être distrait et mal écouter les infos. Ce qui est finalement assez croustillant dans cette affaire, c'est de noter que notre présidente de région est encartée dans un parti politique qui se nomme Horizon. À n'en point douter, en Pays de Loire, l'horizon devient sacrément bouché pour la culture. Les partis politiques changent fréquemment de nom, histoire de montrer qu'ils sont encore en activité, qu'ils n'ont rien de ces volcans éteints. Aussi, pourquoi ne pas suggérer à Horizon de s'appeler désormais, je ne sais pas moi, liquidation ? Ceci étant précisé, il me paraît légitime de vous suggérer une lecture petit budget, surtout pour les professionnels de la culture, alors que la pleine saison des cadeaux pointe son nez.
Ah voilà les poches sous les yeux de Noël.
Certes, cher ami, encore que dans la continuité de ce que je viens de développer, on a un peu l'impression que c'est la région Pays de Loire qui fait les poches à la culture.
Tonton, tu es forcé de faire sans arrêt ce genre de jeu de mots douteux.
Ça doit être une seconde nature, Nolwenn, contre laquelle je ne parviens pas à lutter.
Une forme d'addiction.
En quelque sorte. Bon, je peux enfin parler du bouquin dont je pense le plus grand bien. Merci, Nolwenn. Aujourd'hui, je vous embarque au Texas, au début des années 70. Henry Quinn, un jeune homme d'une petite vingtaine d'années, sort de prison où il a purgé une peine de 3 ans pour avoir accidentellement blessé, par balle, sa voisine, une honnête mère de famille. Il avait pour compagnon de cellule un certain Evan Riggs, qui a eu son heure de gloire en tant que musicien de country, avant de sombrer dans l'alcool et une dépression carabinée. Funeste cocktail qui l'a conduit à frapper à mort un huissier venu lui apporter le type de mauvaise nouvelle que les huissiers ont le don de trimballer avec eux. Pour cet acte dont il ne se souvient pas, car évaporé dans les brumes des mégadoses de bourbon qu'il a avalé ce jour-là, il a pris perpète. Comme Evan Riggs a plus d'une fois tiré d'affaire, euphémisme, son co-détenu au cours de son incarcération, Henry Quinn se sent redevable vis-à-vis de Riggs. Et ça tombe bien, car ce dernier a une mission à lui confier, maintenant qu'il sait que Quinn va recouvrer la liberté. Riggs remet à Quinn une lettre destinée à sa fille Sarah, née alors qu'il était déjà pensionnaire à vie du pénitencier, une fille qu'il n'a jamais vue et dont il ignore jusqu'à l'adresse. On se doute que ça ne va pas être simple pour le brave Henry Quinn de retrouver la trace de Sarah, qui à son âge, à peu de choses près. Mais il a donné sa parole à son ami Riggs, et il va s'évertuer de remplir sa mission. Il a une piste toutefois. Il lui faut se rendre dans le village natal de Riggs, au fin fond du Texas, un village dont le frère de Riggs est, ironie du sort, le shérif. Mais despote ou monarque seraient des termes plus adéquats, tant il est vrai que le frangin prénommé Carson règne en maître sur le patelin et ses habitants en employant des méthodes pour le moins singulières. L'affrontement entre le tout frais ex-taulard et l'inquiétant shérif ne tardera pas, car l'aurais-tu deviné, ma chère Nolwenn ?
Le shérif n'a aucune envie d'aider Henry à retrouver celle qui est quand même sa nièce.
Eh, tout juste. On peut même ajouter que Carson et Ivan, c'est un copier-coller de Caïn et Abel. Les deux se détestent à mort. En partie parce que leur père a clairement manifesté sa préférence pour Evan au détriment de Carson. Mais pas seulement. On ne tardera pas d'ailleurs à découvrir l'origine du féroce contentieux existant entre eux. Un contentieux prénommé Rebecca, qui est la femme que les deux frères ont chacun follement aimée. Au moyen de judicieux flashbacks, R.J. Ellery, l'auteur de ce roman intitulé « Le chant de l'assassin », va nous faire découvrir par touches successives comment Carson Riggs peut nourrir autant de haine à l'encontre de son frère et par transitivité envers celui qui est son messager. Le puzzle va peu à peu s'assembler pour former un tableau des plus terrifiants. Nous sommes certes au Texas, mais Ellery a repris les codes de la tragédie grecque ou du drame shakespearien, l'un étant, il est vrai, la continuité de l'autre. La folie qui mène au point de non-retour, la soif de pouvoir jumeler à l'appât du gain, l'incompréhension et le défaut de communication entre les êtres, les non-dits, l'implacable emprise du désir sur nous, pauvres humains, la trahison. Tous ces ingrédients adroitement triturés et cuisinés par R.J. Ellery font que Le Chant de l'Assassin est un de ces romans que l'on ne lâche pas, ou plutôt qui ne vous lâche pas, candide lecteur qui en avait simplement lu la première page. Bonne lecture, et à l'année prochaine pour d'autres poches sous les yeux et d'autres bouteilles aux trois quarts vides. Moi, c'est facile.
On disait strange.
C'est strange.